Deuxième temps de notre semaine en nouvelle diffusion de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la Révolution française. Ce matin, le documentaire nous rappelle les exhumations des rois de France en 1793 à Saint-Denis. Après avoir suivi jusqu'à sa mort à l'hiver 1793 le parcours d'Olympe de Gouges dans la Révolution, c'était hier. Nous allons ce matin, grâce au documentaire d'Anaïs Quien et de Véronique Samuilov, déjà diffusé sur notre antenne le 15 décembre 2015, tenter de comprendre un moment singulier de cette époque révolutionnaire. Ce moment qui, à l'automne 1793, vit descendre dans la nécropole royale de Saint-Denis des ouvriers chargés de récupérer le plomb des cercueils des rois et des reines de France. Mais évidemment, leur travail alla beaucoup plus loin que cela. 1793, les exhumations de Saint-Denis ou l'encombrant cadavre de la monarchie avec les analyses de Pierre Cernat, de Serge Chantos, d'Emmanuel Furex et de Jean-Marie Logal. C'est ce matin jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire.
Un fragment de la mâchoire de Dagobert, un morceau de crâne et deux maxillaires de Saint-Louis, des cheveux de Philippe Auguste, deux dents de Louis XIV, le pouce de la main gauche d'Henri IV et la jambe momifiée de Catherine de Médicis. Le 2 septembre 1822, Madame de Courcelles, veuve Brulet, propose à son Altesse royale, la Duchesse de Berry, d'acquérir cette collection macabre contre argent sonnant et trébuchant. La duchesse ne donne pas suite. Mais cette transaction avortée rappelle une opération de grande envergure organisée par l'Assemblée constituante pendant la Révolution française. En 1793, alors que Paris résonne des coups de marteau détruisant les icônes de pierre de la royauté déchue, une autre guerre menace la jeune République. Les monarchies voisines se sont liguées pour mettre fin à cette insurrection contre le modèle de gouvernement royal. Cette première guerre républicaine doit se fournir en métaux, en bronze et en plomb, pour fournir les armes et les munitions nécessaires à la victoire.
Dagobert Ier, mort en 638, et la reine Nantilde, sa femme. Clovis II, fils de Dagobert. Charles Martel, mort en 741. Pépin et sa femme Bertrade, morte en 783.
Alors, tout doit se faire dans l'urgence, hein, puisque on avait quand même d'autres soucis également pendant cet été 1793, qui est l'été de tous les dangers de la décennie révolutionnaire. Et tout doit être fait entre le 1er et le 10 août 1793. Donc tout doit être fait rapidement. Le symbole doit être fort. Pourquoi ? Parce que nous sommes en fait 8 mois après l'exécution de Louis XVI et on se rend compte que, en fait, malgré soi, la monarchie est difficile à tuer. Le roi est mort, mais est-ce que les rois sont morts et est-ce que la monarchie est morte ? Peut-être pas.
Et la reine Nantilde, sa femme. Charles Martel, Pépin et sa femme Bertrade, Carloman, fils de Pépin et frère de Charlemagne, Constance de Castille, morte en 1159.
Dans l'église royale de Saint-Denis, nécropole des princes de sang, on démonte les ornements métalliques des tombeaux et l'idée vient aux députés d'extraire le plomb destiné à rendre étanches les cercueils contenant les corps en décomposition. À cette occasion, il est également décidé d'exhumer les cadavres des monarques de France et de les reléguer dans une fosse commune attenante à l'église. Sous la plume de Dom Poirier et d'Alexandre Lenoir notamment, on découvre le récit de ce chantier iconoclaste. 1793, les exhumations de Saint-Denis ou l'encombrant cadavre de la monarchie. Retour à Saint-Denis pour évoquer ces exhumations avec l'historien de la Révolution française, Pierre Cernat.
Donc, nous sommes à un moment où les Montagnards, ayant expulsé de la Convention la trentaine de députés girondins qui sont en fuite, qui ont emprisonné les 60 députés qui ont été solidaires des députés girondins, doivent faire face à une révolte fédéraliste, doivent faire face à la révolte des Vendéens, doivent faire face à une grande offensive sur le nord de la France, dans la région des Alpes et dans la région des Pyrénées. Vous excusez du peu. Il faut à ce moment-là, pour les montagnards, créer une alliance politique avec le peuple. La révolution se construit selon une complexification qui fonctionne sur deux pôles, l'amour et la haine. La haine comme détestation de l'ennemi, la haine comme détestation des tyrans, la haine comme détestation de la monarchie. Mais dans cet horizon d'idéalité qu'a inventé 1789, qu'a relancé la République en 1792, et que créent pour certains les mouvements sociaux de 1793, il faut créer l'amour aussi. Il faut créer l'attachement, la sympathie avec la République. Donc, il y a en fait un mouvement, pourrait-on dire, donc de balancier très subtil et très fort qui fait que le sacrifice qu'on demande au peuple, les violences qui sont infligées au peuple, tout le monde ne mange pas à sa faim, beaucoup de jeunes Parisiens sont partis. Vous ne savez pas combien de jeunes Parisiens, de jeunes Français sont morts à la frontière à l'automne 93. Le prix du sang est terrible dans cet automne 93 pour contenir les armées de la coalition. On l'a un peu trop vite oublié. Donc il faut galvaniser la population. Il faut la tenir sur les objectifs de cette guerre qui normalement aurait dû être perdue. C'est ça la logique de la révolution. Et qui par un effort quasi surhumain, dont le prix sera la terreur, j'en conviens bien, va être emporté. Donc une symbolique doit être créée. Le maître de cette symbolique, c'est Barrère.
Le comité a pensé que pour célébrer la journée du 10 août, qui a abattu le trône, il fallait dans son anniversaire détruire les mausolées fastueux qui sont à Saint-Denis. Dans la monarchie, les tombeaux même avaient appris à flatter les rois. L'orgueil et le faste royal ne pouvaient s'adoucir sur ce théâtre de la mort. Et les portes-sceptres, qui ont fait tant de maux à la France et à l'humanité, semblent encore, même dans la tombe, s'enorgueillir d'une grandeur évanouie. La main puissante de la République doit effacer impitoyablement ces épitaphes superbes et démolir ces mausolées qui rappelleraient des rois l'effrayant souvenir.
Extraordinaire orateur, Barrère fait le lien entre le comité de salut public et la Convention. Et Barrère, dès le mois d'août, crée la détestation des rois. Et c'est le premier Barrère qui est catholique dans la vie privée, mais entièrement laïque dans sa vie de conventionnel, comprend qu'il y a là, ici, à Saint-Denis, un symbole à détruire. On détruit pour fonder aussi de nouvelles valeurs.
Le nombre des monuments détruits du 6 au 8 août 1793, au soir qu'on a fini la destruction, monte à 51. Ainsi, en 3 jours, on a détruit l'ouvrage de 12 siècles.
12 octobre 1793, 21 Vendémiaire, an 2.
On a ouvert le caveau des Bourbons du côté des chapelles souterraines et on a commencé par en tirer le cercueil du roi, mort le 14 mai 1610, âgé de 57 ans. Son corps s'est trouvé bien conservé et les traits du visage parfaitement reconnaissables. Il est resté dans le passage des chapelles basses, enveloppé dans son suaire, également bien conservé. Chacun a eu la liberté de le voir, jusqu'au lundi matin 14 qu'on l'a porté dans le chœur, au bas des marches du sanctuaire, où il est resté jusqu'à 2 heures après-midi, qu'on l'a déposé dans le cimetière dit des Valois, ainsi qu'il a été ci-devant dit, dans une grande fosse creusée dans le bas du dit cimetière à droite, du côté nord.
Bah, descendons dans cette crypte. Alors on se trouve dans cette fameuse crypte Jean-Marie Le Gall, qui a beaucoup changé depuis la fin du XVIIIe siècle.
C'était une espèce de long caveau, une espèce de long couloir dans lequel on entassait les morts. Et à la veille de la Révolution, on est encore à débattre de la nécessité d'aménager cette crypte. Mais on publie des petites brochures pour les visiteurs qui sont vendues dans les auberges autour de l'abbaye ou même à l'entrée de l'abbaye, dans lequel on visualise la disposition de ces cercueils dans la crypte. C'est en sorte une pédagogie de la généalogie royale par la disposition des cercueils dont Madame de Sévigné dit qu'ils sont entassés là comme les tonneaux dans une cave.
Et puis ça s'est étagé sur différentes peaux en fonction des époques. Alors, les sarcophages que vous voyez là, on ne les a pas replacés exactement à leur emplacement d'origine parce que je viens de vous dire ça s'est étagé sur différents niveaux.
Donc, les hommes de la commission qui viennent savent où se trouvent les tombeaux qu'ils veulent ouvrir en premier.
Pierre Cernat.
C'est Dom Poirier, donc, qui est un bénédictin, qui connaît très bien l'histoire, qui vient, mais ce n'est pas Dom Poirier qui dirige les travaux. C'est un dénommé Meynier, qui est administrateur de la commission de fabrication des armes. Une fois de plus, c'est l'administration militaire qui veut tout le plomb de tous les cercueils. Le plomb des tombeaux ne suffisait pas, il faut désormais le plomb des cercueils. Donc, Dom Poirier va faire un procès-verbal. Alexandre Lenoir est là, mais non comme personnalité officielle. Et on a également le gardien du dépôt des transports militaires, Henri Martin Manteau, qui va aussi faire un récit de ce qu'il voit.
Mon grand-père maternel avait été élevé chez les bénédictins de Lagny, où il avait pour précepteur l'un d'eux, Dom Coutances. Lorsque le couvent eut été fermé, et ses habitants dispersés, Dom Coutances, déguisé, revêtu d'habits séculiers, se réfugia dans Paris, où il assista à toutes les scènes de la Révolution. C'est ainsi qu'il fut présent à Saint-Denis lorsque les tombes furent ouvertes. Il a dit à son ancien et cher élève que ce fut vers le soir que l'on arracha le corps d'Henri IV de son tombeau. Ils le placèrent debout contre un pilier, sans oser aller plus loin ce jour-là. Le cadavre y passa la nuit, et ce ne fut seulement le lendemain que de nouveaux venus se joignant aux anciens travailleurs le frappèrent à coups de sabre et le mirent en pièces.
Alors, plusieurs choses. D'abord, effectivement, ce cadavre d'Henri IV, il marque, puisque
Jean-Marie Le Gall,
le noir, va même le dessiner. Eh bien, on voit le roi qui est comme présenté à plat sur une planche avec sa barbe, le trait évidemment du visage très émacié, l'abdomen dénudé mais un peu enflé d'un côté parce que probablement qu'au moment de l'embaumement, on a coupé, on a retiré, bon peut-être que ça a glissé d'un côté ou de l'autre, et puis le bas est entouré de bandelettes d'un linceul. Ensuite, Henri IV, c'est le fondateur de la dynastie, c'est le bon roi, c'est celui qui a une statue sur le pont Neuf. Et justement, au moment de la Révolution, certains vont mettre des petits graffitis sur la statue en disant que ça y est, la France va être régénérée, en quelque sorte, comme elle l'avait été régénérée après les guerres civiles.
Henri IV a commencé avec une légende rose, la Révolution, c'est le bon roi, celui qui demande à son arrière-arrière-petit-fils, Louis XVI, mais qu'es-tu devenu ? Il ne le reconnaît pas puisqu'il est un cochon dans les caricatures. Ce bon roi Henri IV disparaît assez vite. Et au mois d'août 1792, se met en place une autre légende d'Henri IV. C'est un roi qui cachait ses turpitudes derrière sa bonhomie. Et la poule au pot est un pur mythe. Donc, le mythe même d'Henri IV est écorné. On ouvre son cercueil, le corps est momifié, donc il est parfaitement reconnaissable. Alors, le problème, c'est que, vous savez, dans les techniques de conservation, le crâne d'Henri IV a été scié et on a posé sous la boîte crânienne donc, des épices qui sentent épouvantablement fort. Bon, donc il y a toute une opération pour enlever ces épices-là. Et à ce moment-là, c'est dire l'état de conservation du cadavre de Henri IV, va se produire une scène assez extraordinaire et qui est confirmée par deux ou trois témoignages différents. Un soldat s'approche de Henri IV
et après un long silence d'admiration, il tira son sabre, lui coupa une longue mèche de sa barbe, qui était encore fraîche, et s'écria en même temps, en termes énergiques et vraiment militaires, « Et moi aussi, je suis soldat français. Désormais, je n'aurai plus d'autres moustaches. » Et plaçant cette mèche précieuse sur sa lèvre supérieure,
Maintenant, je suis sûr de vaincre les ennemis de la France et je marche à la victoire.
Donc, on a là un transfert de sacralité qui est extraordinaire. Un geste de superstition laïque, pourrait-on dire, qui est extraordinaire. Ce soldat croit en la puissance magique des poils de la moustache de Henri IV, et d'homme à homme, de moustachu à moustachu, si vous me permettez cette expression, de soldat à soldat, on se donne des valeurs éminemment viriles pour combattre les ennemis de la France. Trois types de réactions sont possibles. Alors, ou bien ce soldat, qui est la réaction archétypale du respect, ou de tout d'un coup, la conversion au charme mortuaire du soldat. Une femme va le souffleter. Donc, elle va souffleter le cadavre. Donc, on a ça comme un geste d'iconoclasme, hein, très fort. Donc, en rappelant donc qu'on veut abattre la monarchie et qu'il n'est en fait qu'un roi comme les autres. Cette femme, à mon avis, représente cette exaspération populaire des queues sans fin pour trouver de quoi un petit peu manger et qui n'a pas du tout envie de succomber au charme masculin de militaires ou de la confrérie virile des guerriers entre eux. Troisième attitude, celle d'Alexandre Lenoir, le fameux conservateur du dépôt des petits Augustins, qui est venu, on ne lui a rien demandé, mais enfin, il sait qu'il va se passer des choses très très importantes pour l'histoire de l'art. Il dit qu'il se saisit respectueusement des mains de Henri IV, et ensuite, donc, il raconte cela.
Mardi 15 octobre 1793.
24 Vendémiaire, en deux.
Marie-Anne-Christine Victoire de Bavière, Louis de Bourgogne, Marie Adélaïde de Savoie, Louis, duc de Bretagne, Marie-Thérèse d'Espagne, Marguerite de Lorraine, Jean-Gaston d'Orléans. Rien n'a été remarquable dans l'extraction des cercueils faits au cours de cette journée. La plupart de ces corps étaient en putréfaction. Il en sortait une vapeur noire et épaisse, d'une odeur infecte, qu'on chassait à force de vinaigre et de poudre, qu'on eut la précaution de brûler, ce qui n'empêcha pas les ouvriers de gagner des dévoiements et des fièvres qui n'ont pas eu de mauvaise suite.
On a tendance à trouver évidemment totalement scandaleux le fait qu'on ait osé ouvrir des cercueils. Mais peut-être faut-il se rappeler aussi l'ambiance quand même
Serge Santos.
De l'époque, on va dire, de violence, hein, tout de même. C'est pas si nouveau que cela, cette exhumation.
Et je dirais même que effectivement la mémoire de cet événement est d'autant plus présentée comme terrible qu'on oublie que jusqu'au 19e siècle avancé, inhumer, réinhumer, ne serait-ce que pour réduire les cendres, faisait partie d'une certaine banalité. Ne serait-ce que parce que, tout simplement, les concessions n'étaient pas forcément perpétuelles. Alors, c'est pas adapté à ici, mais le spectacle de l'exhumation est beaucoup plus banal puisqu'il fait l'objet de cérémonies à part entière. On voit régulièrement des cérémonies d'exhumation pour réinhumation. Donc, évidemment, on a cette vision apocalyptique, nocturne, honteuse, mais c'est un geste politique. Le corps des rois ne leur appartient pas. Donc, quelque part, la théorie royaliste devrait au moins admettre que ce ne sont pas des personnages de Paris Match qu'on a exhumés, mais ce sont bien des objets et des corps politiques dans un contexte de révolution politique.
À l'époque, les théories hygiénistes sont marquées par l'idée que les miasmes de l'air sont les principales causes des maladies. Et c'est la raison pour laquelle, au bout de 3 jours, les autorités décident de fermer le sanctuaire à la population pour éviter la contagion. Parce que tout ça, c'est des exhalaisons. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi une culture, dans cette année 1793, commence la phase de déchristianisation. Le temps n'est plus à honorer les morts, en quelque sorte, par des cérémonies, par des monuments. Donc il y a une espèce de rapport au cérémonial funéraire qui permet peut-être de comprendre cette situation
des exhumations.
17 octobre 1793, l'après-dîner, dans la chapelle de Saint-Hippolyte, on a fait l'extraction de deux cercueils de plomb de Blanche de Navarre, seconde femme de Philippe de Valois, morte en 1391, et de Jeanne de France, leur fille, morte en 1371, âgée de 20 ans. On n'a pas trouvé la tête de cette dernière. Elle a été vraisemblablement dérobée il y a quelques années, lors d'une réparation faite à l'ouverture des caveaux.
Les deux tombeaux que l'on n'arrive pas à démonter, tant ils sont majestueux, tant ils sont importants, qui sont les tombeaux de Louis XII et de François Ier. Qu'à cela ne tienne, les révolutionnaires en ont vu d'autres, ont construit une palissade pour les cacher du public. Donc en fait, les tombeaux de Louis XII et François Ier seront en fait démontés plus tard, le 17 et le 18 janvier 1794.
On fouilla au milieu du chœur, au bas des marches du sanctuaire, sous une tombe en cuivre, pour trouver le corps de Marguerite de Provence, femme de Saint-Louis, morte en 1295. On creusa bien avant en terre sans rien trouver. Enfin, on découvrit, à gauche de la place où était sa tombe, une auge de pierre remplie de gravats, parmi lesquels était une rotule et deux petits os. En continuant la fouille dans le chœur, on a trouvé le tombeau où avait été déposé Saint-Louis, mort en 1270. Il était plus court et moins large que les autres. C'est que suivant les historiens, ses chairs furent portées en Sicile. Ainsi, on a apporté à Saint-Denis que les os, pour lesquels il a fallu un cercueil moins grand que pour le corps entier.
Il y a des dizaines de personnes qui accourent ici pour voir ce qui se passe, hein. il faut le comprendre, mais tout cela se fait de façon encore une fois officielle. Il y a le sculpteur Campereau, le sculpteur Cécel qui est là, et des architectes également, des dessinateurs. Le Noir va faire des dessins, nombreux dessins. Et devant en fait cet afflux de personnes, il va falloir s'organiser. Et c'est entre le 14 et le 28 qu'il va y avoir la grande série d'exhumations, donc un peu plus de 100 corps, dont certaines scènes qui nous ont été transmises, et notamment l'exhumation de Louis XIV. C'est une exhumation qui est évidemment attendue, avec quelques personnages qui ont une légende noire dans la galerie des rois au nid de la République, et tout particulièrement Louis XIV. Alors, l'exhumation de Louis XIV, qui a lieu dès le 14 octobre, et spectaculaire parce que le corps est entièrement noir.
On développa une très longue bandelette qui entourait le cou pour mieux assujettir la tête. Il semblait que ce prince commandait encore le respect et que, par la sévérité de ses traits, il menaçait encore ses profanateurs. Incertain quelques instants et même indigné de cette majesté survivante à elle-même, ils s'empressèrent de précipiter le corps dans la fosse commune. Au même instant, je vis descendre un charretier du dépôt dont le dessin n'était pas équivoque. C'était pour outrager de nouveau Louis XIV qui, dans le sein de la terre, ne devait plus redouter aucune main profane. Cet homme fit avec son couteau une large ouverture au ventre du prince. Il en retira une grande quantité d'étoupes qui remplaçaient les entrailles et servaient à soutenir les chairs. Avec le même instrument, il ouvrit aussi la bouche qui était garnie d'étoupes. Ce spectacle donna lieu aux bruyantes et insultantes acclamations de la multitude. Henri Martin Manteau.
Le corps de Louis XIV, nous disent donc les témoignages, n'est pas posé dans la fosse commune. On dit que le corps de Louis XIV est jeté. Cette atteinte directe, elle redit, elle réinterroge par-delà la violence sacrilège, à quel point on doit croire que ces corps portent une valeur pour s'acharner encore sur eux. C'est ainsi qu'on peut conclure. Lorsqu'on porte un regard froid d'historien, il faut bien que ces corps portent encore une valeur symbolique pour qu'on continue à leur infliger une mort alors qu'ils sont déjà morts.
25 Vendémiaires en 2.
Mercredi 16 octobre 1793, 11h du matin, dans le moment où la reine Marie-Antoinette d'Autriche, femme de Louis XVI, eut la tête tranchée, on enleva le cercueil de Louis XV, mort le 10 mai 1774, âgé de 64 ans. On a ouvert le cercueil de Louis XV que dans le cimetière, sur le bord de la fosse. Le corps retiré du cercueil de plomb, bien enveloppé de linge et de bandelettes, paraissait tout entier, bien conservé, mais dégagé de tout ce qui l'enveloppait, tout le corps tomba en putréfaction, et il en sortit une odeur si infecte qu'il ne fut pas possible de rester présent. On brûla de la poudre, on tira plusieurs coups de fusil pour purifier l'air. On le jeta bien vite dans la fosse, sur un lit de chaux vive, et on le couvrit encore de terre et de chaux.
Alors lorsque on ouvre les cercueils, au fur et à mesure, il y a des jugements qui apparaissent. Jugements sur l'état de décomposition ou pas du corps.
Qui dit quelque chose de la vie de l'homme.
Qui dit quelque chose, parce que, comme pour les saints en quelque sorte, ce qui identifie le saint, c'est qu'il a une bonne odeur, l'odeur de sainteté. Le saint ne pourrit pas.
Est-ce qu'il n'y a pas un danger, Pierre Cerna, à donner accès au public à ces exhumations? Parce que finalement, on peut très bien venir, dans un geste révolutionnaire, assister à cette ultime exécution de la monarchie à travers ces corps. Mais on peut également venir pour faire un pèlerinage et voir une dernière fois ces corps qu'on est en train de faire disparaître sous la chaux vive.
Vous avez parfaitement raison. Autour de l'échafaud qui voit la tête de Louis Capet tomber, il n'y a pas que des révolutionnaires. Il y a, dit-on, donc des contre-révolutionnaires qui secrètement se tiennent là et, dit-on, auraient trempé leur mouchoir dans le sang du roi qui, deux ou trois jours après, se retrouve dans les salons contre-révolutionnaires de Londres. Donc il y a aussi, du côté des contre-révolutionnaires, donc un culte de la relique du martyr catholique, qui est aussi une arme spirituelle en ces temps de guerre civile contre la Révolution. C'est pour cela même que, les travaux commençant le 12 octobre, la foule affluant ici, touchant les reliques, prenant des parties de corps, Dom Poirier, donc, dans son souci de conservation, demande à ce moment-là, le 15 octobre, donc vous voyez, deux jours après, aucun débordement, au contraire, parfaite maîtrise de cette opération d'exhumation, que le chantier soit fermé au public, comme l'on dirait aujourd'hui. Donc, dès le 15 octobre, pour des raisons d'hygiène, dit-on, public, d'abord on a peur aussi de maladies, on a peur de certaines maladies, pour des raisons d'hygiène publique, donc le chantier est fermé. Et donc ça conforte ce que je disais tout à l'heure, ceci est une opération officielle. Aucun désordre populaire, aucune mascarade, la preuve même c'est que Dom Poirier récupère, non pas les corps, mais ce qu'il peut récupérer, soit des statues, soit des figures, soit des objets, les confie même à Lenoir qui est là et qui va les transporter au dépôt des petits Augustins. D'ailleurs, cette mesure prophylactique, si je puis dire, de fermeture du chantier au public, n'est pas entièrement politique. Vous connaissez les conditions dans lesquelles est mort Louis XV. On dit qu'il a contracté la variole, dit la légende noire, en violant la fille d'un jardinier. Donc on a très 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 peur de la contamination. Lorsqu'il faut s'attaquer au cercueil de Louis XV, on fait attention. C'est Dom Poirier qui appelle un médecin.
Ce corps retiré du cercueil de plomb, bien enveloppé de langes et de bandelettes, était tout entier. Frais et bien conservé. La peau était blanche. Le nez violet et les fesses rouges comme celles d'un enfant nouveau-né et nageant dans une eau abondante formée par la dissolution du sel marin dont on l'avait enduit, n'ayant pas été embaumé suivant l'usage ordinaire. On jeta de suite le corps dans la fosse où l'on venait de préparer un lit de chaux vive, puis on le couvrit d'une couche de la même chaux et de la terre par-dessus.
il est évident que là, Louis XV étant finalement le dernier roi vivant pour les révolutionnaires, puisque Louis XVI n'est pas un roi, c'est un traître. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que pour une partie de ceux qu'on appelle les révolutionnaires, et qui sont encore royalistes, y compris en 1793, ils n'ont pas fait complètement encore le deuil de la monarchie, le Louis XVI n'est pas un roi, c'est un traître. C'est même plus un mauvais roi, c'est un roi qui n'a pas assumé la royauté. Donc c'est Louis XV, mort en 1774, qui se trouve être, si j'ose dire, en face-à-face direct. Et effectivement, là, dans le procès-verbal, c'est le corps qui est le plus frais, en quelque sorte. Et là, on pourrait parler de mémoire vive de la haine monarchique. Voilà.
Dans le cimetière des Valois, avec Yann Potin, archiviste, et Serge Santos, administrateur de la basilique de Saint-Denis. On se trouve à l'endroit où on jetait justement ces corps exhumés. C'est l'endroit où on avait creusé cette fosse commune, où on recouvrait les corps de chaux-vives pour les tuer une deuxième, voire une troisième fois.
En fait, on est aujourd'hui à l'extérieur, mais précisons tout de même que au départ, cette partie qu'on nomme la rotonde des Valois, et donc qui est encore bien marquée au sol par justement une sorte de cercle de béton, était l'intérieur de l'église, c'était le prolongement de l'église, on pouvait communiquer, et c'était dans cette rotonde qui était le caveau des Valois, aussi bien les gisants monumentaux qu'on peut voir aujourd'hui, que les corps. Donc la fosse commune, sa localisation exacte...
Serge Santos, vous nous montrez.
Il y avait deux fosses communes, plus précisément, qui étaient à peu près dans l'axe de la porte, Donc c'était juste là, aux abords du monument, un endroit où c'était déjà le cimetière. Donc, il y a un cimetière ici depuis les temps mérovingiens jusqu'au XVIIIe siècle.
Alors il faut préciser qu'il n'y avait pas qu'une fosse commune, ou deux fosses communes plutôt. Il y avait également la fonderie. Et ça c'est un détail important puisque ça donne un peu une image un peu autre et qu'apocalyptique qui a été très exploitée par les peintres royalistes au début du XIXe siècle. C'est que, étant donné que l'opération commandée le 10 août 1793 mais qui a mis du temps à être réalisée jusqu'en fin octobre, avait pour motif principal matériel de récupérer le plomb des cercueils et les bronzes figurant sur ces mêmes cercueils, en fait, on avait installé immédiatement une fonderie, en fait, tout simplement, qui permettait de couler et de récupérer ce plomb fondu qui avait pour destination, bien entendu, on est en 1793, les fournitures des armées révolutionnaires.
Les entrailles des princes et princesses étaient aussi dans le caveau, dans des seaux de plomb déposés sous les tréteaux de fer qui portaient leurs cercueils. On les porta au cimetière. On jeta les entrailles dans la fosse commune. Les seaux de plomb furent mis de côté pour être portés, comme tous les autres, à la fonderie qu'on venait d'établir dans le cimetière même pour fondre le plomb à mesure qu'on en trouvait.
Il faut voir que Saint-Denis, c'est pas tant le lieu de la mort que le lieu symbolique de la naissance, puisque seuls des princes peuvent reposer ici, et pas tous les princes de la branche aînée de la famille de France. Il faut être fils ou fille de roi, petit-fils ou petit-fils du roi, et après, on devient des princes du sang, et on a, dans ces cas-là, des chapelles à Dreux, aux Célestins, les Condés ont leur propre nécropole à Saint-Valery-en-Caux. Donc ici, c'est vraiment le lieu de la légitimité, et le lieu de la naissance beaucoup plus que le lieu de la mort. Alors, il faut bien voir qu'on en rajoute un peu, parce qu'il y a relativement peu de Mérovingiens enterrés ici. Je crois qu'il y a deux souverains Mérovingiens, relativement peu de Carolingiens. À l'origine, normalement, il n'était même pas assuré que les reines puissent reposer ici. Et puis, en fait, entre le XIIIe et le XVe siècle, s'est établie l'idée que ça devenait un sanctuaire dynastique. Mais alors à partir du XVIe siècle, on y met systématiquement tous les enfants et petits-enfants de France. Et même lorsque les rois se sont vus interdire, pour des raisons politiques, de pouvoir reposer ici, je pense par exemple à Catherine de Médicis, qui meurt alors que les Ligueurs tiennent Paris, ou Henri III, on fera rapatrier leur corps juste avant d'enterrer Henri IV, pour le cas d'Henri III, afin qu'il n'y ait véritablement aucune fracture, qu'il y ait une suture absolue. Mais il faut voir que cette volonté de rassembler à Saint-Denis les dépouilles des enfants de France, de ce qu'on appelle le sang du France, a continué jusque pendant la Révolution. Puisque en 1791, au mois d'août 1791, alors qu'on a eu la fuite de Varennes, un mois et demi auparavant, eh bien, compte tenu du fait qu'un certain nombre d'abbayes ont été vendues comme biens nationaux, Barbeau, Maubuisson, etc., il se trouve que dans ces abbayes, qui datent notamment du XIIIe siècle, on avait enterré des enfants de Saint-Louis. On ne va pas laisser ces dépouilles princières du sang de France être en quelque sorte vendu à l'encan avec ses abbayes. Et donc Dom Poirier, celui-là même qui sera en quelque sorte le notaire des exhumations royales, 2 ans auparavant, n'oublions pas que c'est un prêtre, a participé à ce transfert des dépouilles princières venant de Barbeau, de Maubuisson et que l'on a rassemblé ici. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que ce qu'il y a de surprenant dans ce cycle de 1793, c'est que Saint-Denis n'a pas pâti des 2 ou 3 premières années de la Révolution.
On a trouvé dans le cercueil de Charles V une couronne de vermeil bien conservée, une main de justice d'argent et un sceptre de 5 pieds de long surmonté de feuilles d'arcante d'argent bien dorées, dont l'or avait conservé tout son éclat. Dans le cercueil de Jeanne de Bourbon, son épouse, on a trouvé un reste de couronne, un anneau d'or, des débris de bracelets ou chaînons, un fuseau ou quenouille de bois doré à demi pourri, des souliers de forme fort pointue, en partie consommés, brodés en or et en argent.
Marie-Antoinette est condamnée et exécutée le 16 octobre, au moment donc de cette grande campagne d'exhumation donc, qui se tient entre le 12 et le 28 août. On n'a pas assez réfléchi encore à ce tournant qu'est le mois d'octobre 1793 qui, au fur et à mesure que j'avance dans les études révolutionnaires, on progresse tout le temps, me montre à quel point c'est un mois d'acharnement contre la figure, le rôle et le corps et la présence des femmes dans la cité. D'autres corps sont comme cela bafoués, pourrait-on dire, le corps de Catherine Médicis. Ce sont ses cheveux qui sont arrachés, la mauvaise reine, donc on dit qu'elle a comploté contre son mari, qu'elle a mal élevé son fils, qu'elle a introduit les conseillers italiens à la cour de France, donc on a là en fait la reine qui a poursuivi cette habitude des reines étrangères qui dévient, qui pervertissent la politique des rois français. Je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent. C'est la naissance des grands procès politiques de Madame Roland, procès politique d'Olympe de Gouges, procès politique de Marie-Antoinette. Je ne crois pas que ce soit 3 femmes menacées directement à la Révolution, mais on est rentré dans un moment de violence politique.
Purgeons le sol des patriotes par des rois encore infectés. La terre de la liberté rejette les eaux des despotes, de ces monstres divinisés, que tous les cercueils soient brisés, que leur mémoire soit flétrie, et qu'avec leurs mânes errants sortent du sein de la patrie les cadavres de ces tyrans.
On va descendre dans la crypte, là où on a commencé les premières exhumations.
Oui, bien sûr.
Là, on se trouve devant la Chapelle des Princes, où se trouvent notamment les restes de Louis XIII, de Louis XIV, de Henri IV, leur cœur dans ces petites boîtes qu'on voit dans l'étagère qui se trouve au fond.
Oui. Ah, d'accord.
Par contre, les tombeaux sont d'autres membres de familles royales.
Très bien.
Ce ne sont pas des corps royaux.
Bien. Ces foutus bougres de gueux de roi sont donc là.
Des bouts de roi sont là.
Des bougres.
Comme vous le voyez là sur le cartel, on parle de... Quel est le mot employé ? On parle de parcelles de corps, de cœur, voilà. Parcelles de corps de Louis XIV,
oui.
Entrailles de Louise Isabelle d'Artois,
les parties du corps représentent le corps en entier. Ce qui pour nous est un déchirement du corps est en fait le contraire dans une esthétique spirituelle ou dans une pratique religieuse de l'Ancien Régime. La parcelle du corps est l'entier du corps. Hein. Parcelle du corps, morceau des entrailles. On imagine immédiatement une scène gore. Alors que dans une logique chrétienne, au sens propre du terme, une parcelle du corps est l'essence du corps même. Hein.
Oui, c'est intéressant. Et disséminer ce corps en plusieurs morceaux, c'est assurer la présence, la diffusion de la présence royale sur un territoire d'autant plus grand qu'il y a plusieurs morceaux qu'on peut exposer dans différents endroits.
C'est le sens de la relique, c'est le sens même religieux de la relique et même de la relique laïque révolutionnaire, puisque les saints martyrs républicains, puisqu'il va en exister aussi, dont les reliques seront aussi vénérées.
Plusieurs témoins
Emmanuel Furex.
Des exhumations de 1793 ont conservé des dents, des mèches de cheveux, des ongles de pieds ou de mains de ces souverains, et en particulier donc de Henri IV et de Louis XIV. Et certaines de ces reliques ont été données à Louis XVIII au début de la Restauration et ont été réinhumées solennellement donc en 1824 à l'occasion des funérailles de ce souverain. Mais cette conservation de morceaux de corps, finalement, traduit à la fois un mouvement de tentative de recharge sacrale pendant la première moitié du 19e, mais cela traduit aussi, ça s'inscrit aussi dans un moment romantique, qui est un moment qu'on pourrait qualifier de nécrophile, c'est-à-dire un moment où un culte des fragments de corps appartenant aux défunts se développe.
Vous allez voir, c'est très exigu. On va entrer. On entre maintenant dans une toute petite pièce d'un mètre cinquante sur deux mètres. Les murs sont en pierre et deux des murs qui se font face sont recouverts de plaques de marbre noir gravées au nom des princes de sang. Sur une de ces plaques de marbre noir, on peut lire « Ici reposent les dépouilles mortelles des dauphins, dauphines, princes et princesses, enfants et petits-enfants de France. » Ensuite, à gauche, on a la liste des rois. Charles V le Sage, Charles VI, Charles VII le Victorieux, Henri IV le Grand, Louis XIII le Juste, Louis XIV le Grand, Louis XV le Bien-Aimé.
C'est une chapelle donc, qui est créée par Louis XVIII.
Serge Santos.
Un ossuaire, simplement pour mettre les os. Rappeler que les rois étaient enterrés à Saint-Denis, puisque son objectif en 1815, c'est réorganiser la nécropole royale. C'est recommencer l'inhumation. Faire chercher Louis VII, faire chercher Louise de Lorraine qui n'était pas enterrée à Saint-Denis. Donc il veut reprendre le cours de l'histoire qui, selon lui, s'est arrêté à un moment, quelques années auparavant.
Yann Potin.
Cette tentative de restauration des corps dans une continuité qui, de toute façon, est rompue et est rompue à jamais. Puisque si en 1824, il y aura encore une inhumation avec Louis XVIII, eh bien, Charles X, le dernier des rois Bourbons, lui, ne sera pas inhumé dans ces lieux.
Cette pièce est très émouvante. Cette pièce est très émouvante parce que je pense aux ouvriers qui ont participé aux exhumations. Vous voyez les noms que nous avons de part et d'autre.
Pierre Cernat.
Nous, Dagobert. On a là Louis VIII, Louis IX, donc Saint-Louis, Louis XV, bien sûr. Nous avons Philippe IV, le Bel. Vous imaginez un petit peu pour un maçon sans culotte, simple citoyen aussi, d'être confronté comme cela à l'histoire. Et pas confronté de la façon la plus brutale qui soit. Je pense à ce tableau d'Hubert Robert qui décrit cette scène. C'est un des rares témoignages iconographiques. Alors c'est pas un témoignage, il le peint et le dessine après. mais ce qui est très important, c'est de voir l'ambiance. Il y a des ouvriers qui s'affairent avec calme autour d'un cercueil. Seul le gilet rouge d'un ouvrier nous donne une petite pointe d'indication qu'on est pendant la Révolution, et c'est tout. Un calme, sérieux, pourrait-on dire, donc, et application par rapport à ce qui est donc un travail dans la généalogie, l'archéologie de l'histoire de France, qu'il déterre pour faire du passé table rase. Car au fond, c'était ça, cette exhumation. Du passé, faisons table rase. Pas simplement dans un geste sacrilège, mais aussi pour dire, eh bien, nous aussi, nous voulons réinventer notre futur.
Il s'agit vraiment de combler l'abéance révolutionnaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de rétablir Saint-Denis comme le centre mystique de la monarchie. Et pour ça, il s'agit d'abord de retrouver les corps. Alors la première urgence est de s'occuper des monarques les plus récemment disparus, c'est-à-dire Louis XVI et Marie-Antoinette.
Qui avaient été enterrés où ?
Qui avaient été inhumés dans un cimetière charnier, qui était le cimetière de la Madeleine, dont les restes sont donc exhumés en janvier 1815 et transférés en grande pompe à Saint-Denis le 21 janvier 1815, avec une très forte dimension expiatoire. Car c'est le maître mot de la restauration, y compris pour Saint-Denis. Expier, c'est à la fois réparer une profanation, ici double profanation, celle du régicide et celle d'une inhumation dans des conditions sordides. Et puis expier, et c'est là qu'est l'ambiguïté, c'est aussi exercer une repentance, voire appeler à une vengeance collective. Et donc, la cérémonie du 21 janvier 1815, elle est sous ces deux auspices d'une réparation rituelle et en même temps d'un appel à la repentance collective. Le message expiatoire a suscité de très très fortes résistances, y compris de la part de ceux qui vouaient un culte à la personne de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Le fils de Louis-Philippe, Ferdinand d'Orléans, qui raconte a posteriori combien la présence à Saint-Denis était devenue pesante et qui invente des maladies imaginaires pour s'abstenir de venir dans les dernières années de la Restauration. C'est le cas aussi de Lafayette qui n'en peut plus de ses hôtels d'expiation, comme il le dit dans ses mémoires. La deuxième urgence donc concernant Saint-Denis pour les monarques restaurés, c'est de réparer la profanation d'octobre 1793 et par conséquent de réinhumer, si possible solennellement, les ossements qui avaient été rassemblés dans une fosse commune à côté de la basilique. Et une campagne est réalisée pendant une semaine, nuit et jour, pour trouver avec acharnement les 10 ossements. Et c'est donc au bout d'une semaine que le 18 et le 19 janvier 1817, donc 2 ans après Louis XVI et Marie-Antoinette, ces ossements sont rassemblés dans des cercueils, puis réinhumés donc dans la crypte.
Dans la crypte où nous sommes ?
Oui.
Je propose qu'on sorte de la crypte. Serge Santos, aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans cette nef de la basilique, on en voit pourtant énormément des tombeaux, des gisants. On les a sauvés. Comment sont-ils revenus à cet endroit-là ?
Finalement, il y a environ 80% des gisants qui ont été conservés. Alors, évidemment, pas l'ensemble de ces tombeaux. Aujourd'hui, on voit de très belles choses, évidemment, le reste de toutes ces tombes merveilleuses, mais qui étaient décorées de beaucoup de sculptures. Toutes ces décorations, toutes ces sculptures ont été détruites. Hein. Donc, à la Révolution, elles ont été transportées à Paris, hein, dans un musée qui a été créé vraiment par la Convention, dont Alexandre Lenoir a pris la direction. Un musée qui a été installé en face du Louvre sur l'emplacement de l'actuelle École des Beaux-Arts. Le musée des Petits Augustins est un musée qui a eu beaucoup de succès, hein, un succès populaire extrêmement important qui a permis finalement de faire redécouvrir l'art de la sculpture. Donc, les gisants ont été conservés en grande partie grâce à Dom Poirier, grâce à Alexandre Lenoir aussi, hein, qui a permis cette conservation. Donc aujourd'hui, il y a encore énormément de sculptures anciennes.
Merci à Pierre Cernat, Jean-Marie Le Gall, Emmanuel Furex, Yann Potin et Serge Santos. Merci également à Stanis Pérez. Lecture, Daniel Königsberg. Prise de son, Yvan Turc. Mixage, Alain Joubert. 1793, les exhumations de Saint-Denis ou l'encombrant cadavre de la monarchie. Anaïs Quin, Véronique Samouiloff.
Demain, nous poursuivons notre série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire en rediffusion consacrée à l'histoire de la Révolution française. Et demain, nous vous parlerons de la vie quotidienne pendant cette période révolutionnaire. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.